Gambotti. Quand il a dit ça, son fan club a bodé.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, les Malawites de retour aux urnes pour un second duel présidentiel suite à l'annulation du scrutin de l'an dernier. L'Assemblée nationale burundaise approuve la nomination d'Alain Guillaume Bunyoni comme Premier ministre. Au Burkina Faso, l'armée dit avoir démantelé deux bases terroristes dans l'est et le nord du pays. Le président Donald Trump a décidé hier de prolonger les interdictions de visa pour certains travailleurs étrangers, une mesure critiquée par les géants de la haute technologie. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les Malawites sont retournés aux urnes ce mardi, plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du président sortant Peter Mutharika en raison de fraudes massives. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dès l'aube, les électeurs ont commencé à se presser devant les quelques 5000 bureaux de vote au terme d'une campagne rythmée par de nombreuses réunions publiques malgré la pandémie de coronavirus. Peter Mutharika, 79 ans, retrouve encore sur sa route le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 65 ans. Le troisième candidat, Peter Kouani, a très peu de chances de perturber le face-à-face entre les deux favoris. Le président sortant a voté à Blantyre, dans la capitale économique, et le chef de l'opposition a voté à Lilongwe. Pour leur second duel présidentiel, le chef de l'opposition s'est allié au vice-président Saulos Chilima, qui a rompu avec Mutharika et il avait réuni 20,2% l'an dernier. À l'issue de l'élection du 21 mai 2019, la commission électorale avait proclamé la victoire du chef de l'État sortant avec 38,57% des suffrages contre 35,41% rival. Lazarus Chakwera avait saisi la Cour constitutionnelle et à la surprise générale, ses juges ont annulé en février la victoire de Peter Mutharika, confirmant des irrégularités généralisées et systématiques. Le Malawi est ainsi devenu le deuxième pays d'Afrique subsaharienne après le Kenya en 2017 à annuler un scrutin à la magistrature suprême.
Le Burundi a un nouveau Premier ministre et vice-président sur proposition du président de la République qui a prêté serment il y a 3 jours. L'Assemblée nationale à l'unanimité, 92 voix pour et 2 abstentions, a approuvé en séance plénière la nomination du maréchal Alain Guillaume Bunyoni comme Premier ministre et Prosper Banzombaza comme vice-président. Le point avec Nanit Talani.
Ces deux personnalités vont prêter serment demain mercredi devant la Cour constitutionnelle. Le Burundi est régi aujourd'hui par 2 constitutions. Celle de 2005 qui va prendre fin le 20 août prochain et celle qui a été adoptée en 2018. Avec la nomination du maréchal Alain Guillaume Bunyoni comme Premier ministre, sur proposition du général Évariste Ndayishimiye, le Burundi est gouverné par 2 généraux issus de l'ancienne rébellion du CNDD-FDD qui est arrivée au pouvoir par l'accord de paix signé à Arusha en 2000. Ils sont tous les deux issus de la majorité ethnique Hutu, tandis que le vice-président est issu de la minorité Tutsi. Une procédure accélérée pour que le nouveau chef de l'État puisse mettre en place son gouvernement dans les prochains jours avant l'inhumation de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, prévue vendredi à Gitega, la capitale administrative du pays. Considéré comme le numéro 2 du régime depuis 2015, l'administration Obama a sanctionné Alain Guillaume Bunyoni, jusque-là ministre de la Sécurité publique, pour avoir dirigé la répression des manifestations pacifiques en ayant recours à un usage disproportionné de la force.
En République démocratique du Congo, un casque bleu indonésien a été tué et un autre blessé hier soir dans l'attaque de leur patrouille à 20 km de Beni, près de la frontière ougandaise. La victime participait à la construction d'un pont dans la zone de Ouloulou, selon la MONUSCO. Les ADF sont accusés d'avoir massacré plus de 500 civils depuis novembre 2019 en réponse aux opérations de l'armée congolaise contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Beni. Au Burkina Faso, l'armée annonce avoir démantelé deux bases terroristes lors de deux opérations distinctes à Tawalbougou dans l'est et Oursi dans le nord du pays. En outre, deux suspects ont été interpellés dans une opération de sécurisation à la frontière ivoirienne. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Selon le bilan hebdomadaire fait par l'armée burkinabé, l'une des bases a été démantelée samedi par une unité de la gendarmerie aux environs de Tawalbougou. Un important lot de moyens roulants et divers autres matériels ont été récupérés. L'autre base a été démantelée à 40 km d'Oursi, dans le nord, par le bataillon burkinabé du G5 Sahel, appuyé par une compagnie nigérienne. Au terme de cette opération, 8 motos, des téléphones et divers autres matériels ont été saisis. Au cours de la même journée de samedi, deux individus suspects ont été interpellés et remis à la gendarmerie lors d'une opération de ratissage dans les environs de la localité d'Alidougou, dans le sud-ouest, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Cette opération a été menée conjointement avec les forces ivoiriennes. Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont les régions les plus touchées par ces attaques qui ont fait près de 1 000 morts et 1 million de déplacés.
Suite de l'affaire des surfacturations d'équipements militaires au Niger, le parquet a remis le rapport définitif aujourd'hui. Les surfacturations et les livraisons non effectuées d'équipements militaires ont coûté 32,6 milliards de francs CFA à l'État. L'affaire des surfacturations avait fait grand bruit au Niger après la diffusion sur les réseaux sociaux d'extraits d'un rapport d'audit provisoire qui chiffrait les irrégularités à plus du double. Le Soudan est proche d'un accord avec les États-Unis concernant l'indemnisation des familles de victimes des deux attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Une délégation soudanaise est actuellement à Washington pour finaliser cet accord. Revendiqué par Al-Qaïda, ces deux attentats avaient fait 224 morts et 5000 blessés en août 1998. Les États-Unis ont accusé le Soudan d'avoir aidé les djihadistes qui ont mené ces attaques et ont exigé des compensations pour les familles des victimes. Au Kenya, un policier a été inculpé pour le meurtre d'un enfant de 13 ans tué fin mars dans un bidonville de Nairobi pendant que les forces de l'ordre faisaient respecter le couvre-feu imposé pour contenir le coronavirus. Le policier a plaidé non coupable. La police kényane est impliquée dans la mort d'au moins 15 personnes depuis le début du couvre-feu. Afrique du Sud, le procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma a été de nouveau reporté, cette fois au 8 septembre. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin de la société française Thales en échange d'un énorme contrat d'armement en 1999. L'Afrique du Sud va lancer cette semaine le premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus. Ce vaccin, développé par l'université d'Oxford, est déjà en phase de test au Royaume-Uni, où plus de 4000 personnes doivent y participer. En Afrique du Sud, quelques 2000 personnes ont été enrôlées, dont 50 porteuses du VIH-Sida.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre le chômage aux États-Unis, le président Donald Trump a décidé hier le gel des cartes vertes et certains visas de travail jusqu'en 2021, dont les H1B très utilisés dans le secteur des hautes technologies. Les grands noms de la tech américaine protestent contre ces restrictions. Eric Manirakiza.
Un décret signé hier prolonge jusqu'au 31 décembre la suspension de la délivrance des cartes vertes offrant un statut de résident permanent aux États-Unis sans toucher au visa de travail temporaire. Il inclut aussi plusieurs types de visas de travail, dont le H1B, très utilisé dans le secteur des hautes technologies et octroyé chaque année à quelque 85 000 personnes. Sont également concernés la plupart des visas J utilisés pour les étudiants-chercheurs, les visas L de transfert intercompagnie servant pour certains contrats expatriés, les H2B accordés chaque année à quelque 66 000 travailleurs peu qualifiés, avec une exception pour l'industrie alimentaire, et les H4 qui permettent aux épouses des détenteurs d'autres visas de travailler. Cette pause devrait empêcher l'arrivée en moins de 525 000 étrangers et réserver leurs emplois à des Américains. Le président de Microsoft, Brad Smith, juge que ce n'est pas le moment de couper le pays des talents internationaux ou de créer de l'incertitude. Suzanne Wojcicki, patronne de YouTube, filiale de Google, et fille d'un immigré polonais, dit que l'immigration occupe une place centrale dans l'histoire des États-Unis et dans son histoire personnelle. Elon Musk, patron de Tesla, né en Afrique du Sud, exprime également son désaccord et précise que réformer le système de visa a du sens, mais que la mesure de Trump va trop loin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Les pays en développement pourraient économiser plus de 12 milliards de dollars dus à des créanciers souverains cette année grâce à leur participation à un programme d'allègement de la dette, indique la Banque mondiale. En Afrique, l'Angola économisera environ 3,4 milliards de dollars et le Kenya 802 millions de dollars. Toutefois, les économies réalisées seront à court terme car l'initiative prévoit la suspension des paiements de la dette jusqu'à la fin de l'année, mais ne les annule pas. Le commerce international devrait enregistrer un recul historique de 18,5% au deuxième trimestre contre 3% au premier trimestre en raison du coronavirus, annonce l'Organisation mondiale du commerce. La baisse de la production a principalement touché les services non échangeables tels que l'hébergement, les services personnels et les loisirs. Pour terminer, la société de télécommunication Nokia veut supprimer 1233 emplois en Europe pour réduire ses coûts. Pour cela, Nokia prévoit un plan de départ volontaire et des solutions de reclassement. Les emplois supprimés concerneront surtout des postes de recherche et développement. Les syndicats dénoncent une catastrophe. Ces suppressions de postes s'inscrivent dans le cadre d'un plan mondial de Nokia de réduction des coûts lancé depuis 2018.
Dans la page sport présentée ce soir par Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. Les clubs du championnat nigérien de football ont voté pour la fin de la saison à cause du coronavirus. La saison 2019-2020 est conduite à s'arrêter en raison des circonstances actuelles de la pandémie de COVID-19 qui a ravagé le monde entier, a annoncé le président des propriétaires du club Isaac Danladi, patron du Nasarawa United. 17 des 20 clubs de première division ont voté pour la fin de la saison, actant un classement en fonction du nombre de points glanés par match joué et l'absence de relégation. En conséquence, les clubs de Plateau United et d'Enyimba se qualifient tous deux pour la Ligue des champions CAF et Rivers United pour la Coupe de la Confédération. Cette décision de mettre fin à la saison a été transmise à la fédération pour confirmation finale. Au Maroc, par contre, le championnat de football va reprendre fin juillet. Selon l'annonce faite par le ministre de la Culture et des Sports, Othman El Ferdaous, les entraînements débuteront cette semaine, a déclaré le ministre au cours d'une intervention devant une commission parlementaire, précisant qu'un protocole sanitaire a été mis en place et sera dévoilé prochainement par la fédération. Aucune annonce n'a été faite sur le retour du public dans les stades fermés depuis que le Maroc a instauré l'état d'urgence sanitaire mi-mars. Le Wydad de Casablanca occupe la première place du classement, figé à la 21e journée du championnat qui en compte 30. Le Maroc a entamé ces dernières semaines un déconfinement progressif qui va s'accélérer ce jeudi avec la réouverture des cafés, hôtels, restaurants et salles de sport. En Algérie, l'ancien international Majid Bouguera a été nommé à la tête des Fenecs locaux. L'ancien capitaine de l'équipe nationale et ancien entraîneur d'Al Douhil a pour mission de mettre en place une équipe compétitive en vue du CHAN 2022 qu'accueille l'Algérie. En plus de cela, il devra aussi, je cite, « prospecter et suivre de plus près les joueurs du championnat national, non seulement pour la sélection dont il aura la responsabilité, mais également pour l'équipe A où il collaborera étroitement avec M. Jamal Belmadi. » Entre juillet 2019 et février 2020, Majid Bouguera a entraîné Al Fujairah aux Émirats Arabes Unis avec un bilan de 10 défaites, 3 victoires et 2 matchs nuls en 15 rencontres. Tennis pour finir, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a annoncé avoir été testé positif au coronavirus. Novak Djokovic a été testé positif au COVID-19, lit-on dans un communiqué de son staff, précisant que le joueur serbe ne ressent aucun symptôme. Djokovic s'ajoute à la liste des joueurs contaminés en marge du tournoi qualificatif qu'il a organisé dans les Balkans. Trois joueurs ayant participé à l'Adria Tour qui a démarré à la mi-juin à Belgrade ont déjà annoncé leur test positif au Covid-19. Il s'agit du Bulgare Grigor Dimitrov, 19e mondial, du Croate Borna Koric, 33e mondial, et le Serbe Viktor Trojki, 184e mondial.
Merci à toi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Dans l'est du Burkina, 12 villageois ont trouvé la mort le 12 mai dans leur cellule à la gendarmerie de Tanwalbougou. Afada, le procureur du Faso, a affirmé que les corps n'avaient pas de traces de torture et qu'il n'avait pu établir les raisons exactes de ces morts. Après plusieurs semaines d'enquête, la Commission nationale des droits humains du Burkina affirme, sur la base de nouveaux témoignages, que les personnes arrêtées ont été torturées. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La mort le 12 mai de 12 villageois arrêtés avec 13 autres pour suspicion de terrorisme par les forces de défense et de sécurité à Tanwalbougou alimente les débats. Aucune autopsie n'a été effectuée à ce jour. Et selon un certificat médical cité par le procureur du Faso, Judikael Kadeba, les corps ne présentaient aucune trace de violence physique. Mais début juin, la CNDH, la Commission nationale des droits humains, s'est rendue dans la localité et tire une autre conclusion.
Les personnes arrêtées affirment avoir subi des actes de torture et de maltraitance.
Khalifa Namouano, président de la Commission nationale des droits humains.
Ils affirment avoir été battus, frappés avec divers objets et sur l'ensemble donc de leur corps.
La CNDH demande une célérité dans le traitement du dossier par la justice militaire. Khalifa Namouano.
Dans le cas du décès des 12 détenus et du renforcement de la sécurité dans la zone, invite donc la justice militaire dans le cadre de la manifestation de la vérité à plus de célérité dans le traitement du dossier afin d'identifier les causes réelles et exactes, de situer les responsabilités, de sanctionner les coupables.
La Commission des droits de l'homme s'inquiète aussi des tensions communautaires dans la région qui, selon les mots de Khalifa Namouano, est une véritable poudrière avec des communautés qui se regardent en chien défaillance et des risques très élevés d'affrontements intercommunautaires. Mais selon le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, le vrai problème ce sont les volontaires armés par l'État dans des conditions peu claires et aussi l'action de certains éléments des forces de l'ordre. Daouda Diallo en est le porte-parole.
Il n'y a que les volontaires et la gendarmerie qui mettent tout en œuvre pour empêcher les peuls à avoir accès aux services sociaux de base. Ce que les autorités pourront faire, c'est d'engager une enquête indépendante et travailler à ce que les victimes soient protégées et compensées. Il faut également urgemment relever le chef de poste de la gendarmerie avec ses collaborateurs et suspendre aussi les volontaires pour engager un dialogue franc.
Siaka Koulibaly, analyste politique, salue l'action de la CNDH.
Sous le couvert donc de la lutte contre le terrorisme, il se trouve qu'il y a aussi des exactions menées par les forces de défense et de sécurité. Ces exactions ont été rapportées par plusieurs organisations internationales comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, impliquant les armées des pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Aussi, le dossier doit avancer sur le plan judiciaire.
On aurait aimé avoir des avancées significatives.
Albert Nagreogo est le directeur de publication du site en ligne Libre Info.
Quoi qu'il en soit, aucun rapport aujourd'hui ne peut conforter la position des parents que ces victimes n'ont pas été exécutées par balle.
Le président Kabore, après un conseil de défense, avait rassuré que toute la lumière sera faite autour de ce dossier de Tanwalbougou. La Commission des droits humains, pour sa part, dit rester extrêmement préoccupée par des actes de violation des droits de l'homme ces derniers au Burkina. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, en plus de la pandémie du Covid-19, les Sénégalais font face à une pénurie d'eau depuis plusieurs jours. Une situation qui commence à agacer fortement les populations. Il faut de l'eau pour se laver les mains afin de se protéger du coronavirus. Et l'eau ne coule plus au robinet dans plusieurs quartiers de la capitale et sa banlieue. De notre correspondant à Dakar, Sédina Abagueil.
Ben Tali, Nyari Tali, Biscuiterie, Grand Dakar, Grand Yoff, Parcelle Assini, Guédiouaï, pratiquement aucune zone de la capitale sénégalaise n'est épargnée par le manque d'eau. À Dakar, les populations affichent leur souffrance. Ibrahima Sall est dépité par cette situation.
On vit ça très dur parce qu'on attend l'eau la nuit. On dort pas. On attend jusqu'à 4h ou 5h pour que l'eau vienne. Vraiment, on est fatigué en raison de cette pandémie qui terrorise tout le monde. On n'a plus d'eau. C'est difficile à dire quoi, mais c'est pas bon pour notre santé. L'eau est une matière que tout le monde a besoin, chaque instant, chaque jour. Mais ça manque tout le temps. Des fois, les gens ne savent pas quoi faire.
En cette période marquée par la pandémie de la COVID-19, les citoyens s'inquiètent également du respect des conditions d'hygiène. Cette pénurie d'eau peut être un facteur aggravant de la propagation de la COVID-19, d'après Awo Kouate, résidente du quartier Cheikh Ngom, dans la banlieue de Dakar.
Pour cette situation, on le vit très mal, franchement à parler. Parce qu'on veille jusqu'à 4h du matin pour avoir de l'eau. Et même pas à 6h, ça s'arrête là. On ne dort pas normalement. C'est quelque chose de très difficile. Comme tout citoyen, on se débrouille, franchement à parler. Même si la vie est tellement dure ces temps-ci avec la pandémie, c'est pas sûr. Parce qu'il y a tous les risques qui sont dedans. En fait, pour se laver les mains, genre, etc. Et l'eau n'est pas là. Il y a tous les facteurs dedans, quoi. Mais bon, on essaye de faire y aller. Et j'aimerais bien que, bon, voilà, que nous réglions ça le plus vite possible.
En plus de ne plus trouver suffisamment d'eau pour assurer leurs besoins élémentaires, les Sénégalais se plaignent également d'une hausse des factures qui impacte leur vie, déjà très difficile. Tierno Ndiaye habite au quartier Touba de Dakar et affirme que cette situation n'est plus tenable.
On est très fatigués, nos femmes n'en peuvent plus. Maintenant, ce sont les hommes qui prennent le relais pour aller chercher de l'eau ou attendre son arrivée tard la nuit. À cause de cette situation, nous sommes parfois en retard pour aller au travail. Depuis le changement de gestionnaire de l'eau, les factures ont considérablement augmenté. Personne ne peut le nier, alors qu'il n'y a même pas d'eau. On veut bien payer, mais il faudrait d'abord qu'un service de qualité soit assuré. Mais avoir de l'eau entre 3h et 5h du matin seulement, c'est pas possible.
Pointé du doigt, la société Seine-Eau, gestionnaire de l'eau au Sénégal depuis janvier 2020, assure que ces désagréments sont dus à des travaux de maintenance et qu'une soixantaine de camions-citernes font des rotations pour garantir l'accès à l'eau aux zones déficitaires. En attendant des explications détaillées sur la hausse des factures, les Sénégalais, sevrés d'eau, espèrent un rapide retour à la normale. À Dakar, Seydina Bagui.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la condamnation à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds et corruption de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est diversement appréciée en RDC. Si certains saluent un pas important dans la lutte contre la corruption, d'autres y voient un règlement de compte politique. Ce procès des 100 jours marque-t-il un tournant dans la reddition des comptes? Quel est l'avenir de la coalition au pouvoir dont Kamerhe était l'un des ténors? Nous allons débattre de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil Bleu est aussi la source de vives tensions régionales. Dans sa réunion hier, le Conseil de sécurité a appelé l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan à travailler ensemble pour trouver une solution. Les négociations, commencées depuis des mois sous l'égide des États-Unis et de la Banque mondiale, piétinent et personne ne souhaite une guerre de l'eau vitale pour ces trois pays. Où se situent les points de blocage? Bakassi Koura joint ici à Washington Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique.
L'Égypte croit que l'Éthiopie va remplir le barrage trop rapidement. Donc ça va priver le peuple d'Égypte de l'eau du Nil, très important pour l'agriculture. Pour l'Égypte, l'eau du Nil, les deux Nils, le Nil bleu, le Nil blanc, c'est la vie ou la mort pour l'Égypte. Donc, il croit que l'Éthiopie va remplir le barrage très rapidement.
Et on parle du mois de juillet pour ce remplissage.
Pour commencer le remplissage. Combien de temps ils vont prendre pour remplir? Est-ce qu'ils vont prendre 3 mois, 6 mois, 1 an? Je ne sais pas. Mais selon l'Égypte, ils vont faire ça trop rapidement.
Est-ce que vous savez si les négociateurs y sont confiants? Est-ce qu'il y a une seconde chance possible?
ça doit être possible. L'Amérique a fait les négociations et ils ont fait une proposition. Mais l'Éthiopie a rejeté la proposition des États-Unis.
Laquelle?
Mais ça, les États-Unis n'ont pas dit, n'ont pas donné des détails en public. Donc, je ne peux pas dire. Mais l'Éthiopie a sans doute croit que la proposition américaine demande que le remplissage soit trop lent. Peut-être que ça doit prendre quelques années.
Alors là, on parle d'Éthiopie, de l'Égypte. Il y a aussi le Soudan dans la liste de ces pays-là. Pourquoi le Soudan?
Le Nil, les deux Nils, le Nil bleu et le Nil blanc, passent par le Soudan avant d'arriver en Égypte. Donc, Soudan aussi dépend des eaux du Nil. Ils ont leur agriculture, ils ont leur besoin d'eau pour les maisons, pour les ménages. Donc, eux aussi ont des soucis pour le barrage.
Donc, c'est un peu comme deux contre un, Égypte-Soudan d'un côté.
Ça peut être deux contre un, oui, c'est vrai.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Kenya, le couvre-feu et les restrictions dues au coronavirus ont entraîné une augmentation de la violence contre les femmes, selon des agents de santé. Un groupe qui travaille sur la prévention du VIH et la santé reproductive affirme que l'insécurité économique met à rude épreuve les familles et expose certaines femmes à la violence de leur mari. Un reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Lucy Awour, 32 ans, est venue chercher de l'aide dans un centre public qui soutient les femmes fuyant un conjoint violent au Kenya.
La vie a été difficile pour moi. Je n'ai pas la paix dans ma maison. Parfois, je n'ai pas de nourriture pour mes enfants. Mais surtout, mon mari me bat au milieu de la nuit. Je ne dors pas en paix.
Pour échapper à cette violence, Lucy Awour dit espérer la reprise des transports intérieurs afin qu'elle puisse se réfugier avec ses enfants dans sa famille. Charles Wino, porte-parole de la police, a déclaré qu'il voyait de plus en plus de rapports de violences sexistes depuis le début de la pandémie de Covid-19.
Souvent, la femme est en situation de faiblesse, elle devient victime. Et par conséquent, nous constatons un certain nombre de cas, une augmentation du nombre de cas où des femmes ont été probablement agressées, maltraitées.
Il n'y a pas encore de chiffres officiels, mais les agents de santé kényans disent avoir constaté une augmentation des cas d'abus depuis la mise en place du couvre-feu en mars pour limiter la propagation du coronavirus. Jeanne Thiomi de Elvicity Health, une organisation qui soutient les femmes et les filles victimes d'abus, a déclaré que son ONG avait reçu 123 cas de maltraitance et violences basées sur le genre en février, tandis qu'ils en ont enregistré près de 800 au cours des 6 premières semaines de couvre-feu.
Avec l'aide d'agents de l'État, de nombreuses personnes dénoncent quotidiennement des violences. Et ce que nous faisons, c'est simplement nous asseoir avec les deux parties, s'ils sont prêts à le faire, et avoir une conversation, une sorte de processus de négociation. Parce que la personne victime d'abus de nos jours n'a nulle part où aller.
Pour les autorités kényanes et les associations caritatives, l'aggravation de la violence à la maison vient principalement du stress causé par la perte de revenus due à l'arrêt des activités économiques en période de pandémie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal.
Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.